Emmène dans l'évangile de Jean. C'est Pâques, comme l'a dit Bruno, l'anniversaire de la résurrection de Jésus, l'événement le plus important de l'histoire des humains. Pour les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui, et puis tous ceux qui croiront demain, ce sera le jour central, le jour pivot. C'est pour ça qu'on le célèbre chaque année, c'est pour ça qu'on prend la Sainte-Seine plusieurs fois par mois aussi, et que nos cultes, ben on les fait le dimanche. Jésus est ressuscité un dimanche. Voilà. Les Juifs faisaient leur fête le samedi. Puis comme Jésus est ressuscité un dimanche, nous, on a mis à part ce jour-là. Alors ce matin, je vais vous lire un texte sur la découverte de la résurrection. Par les disciples, mais particulièrement par un disciple qui s'appelle Thomas. On trouve ce récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19. Alors vous pouvez, vous savez, nous les protestants, on a cette habitude de lire la Bible ensemble. Parce qu'à l'époque de la réforme, les catholiques nous interdisaient de lire la Bible, et puis qu'il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit de la lire, en latin. Alors nous, on avait cette tradition, quand le pasteur il la lit, ben, tout le monde la lit, parce qu'il n'y a pas que lui qui peut la lire. On a tous accès à l'écriture de Dieu. Donc, Jean, chapitre 20, verset 19. Mais avant de lire la parole, je veux prier. Seigneur, par ton esprit, inspire-moi, inspire-nous dans ce moment où nous ouvrons ces écritures pour qu'elles nous transforment. Amen. Le récit se passe au moment où, le jour de la résurrection, Marie de Magdala est venue au tombeau, elle l'a trouvé ouvert, avec des anges qui l'ont dit, il est ressuscité, elle se retourne, elle tombe sur Jésus. Mais elle est tellement émotionnée qu'elle ne le reconnaît pas, elle le confond avec le jardinier ou le gardien du cimetière. Mais quand il lui parle, la voix fait comme un électrochoc et elle court le dire aux disciples, qui je pense ne l'ont pas cru, si on en croit les récits de Matthieu et de Luc. Et ce soir-là, on lit le texte. Le soir de ce dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison et ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Et Jésus vint debout au milieu de eux et leur dit « La paix soit sur vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains, son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus répéta, « La paix soit sur vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après cette parole, il souffla sur eux en disant, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Et les autres disciples lui racontèrent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas répliqua, « Si je ne vois pas les clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place de ses clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit « La paix soit sur vous !» Puis il s'adresse à Thomas « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse pas de croire, mais deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus reprit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ?» Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus accomplit encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui est écrit, l'est pour que vous y croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie par lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous connaissez l'expression populaire, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà un bien triste héritage pour l'apôtre. En effet, les personnes plutôt utilisent ce dicton pour justifier qu'elles ne croient pas. Tandis que Thomas, quoi qu'on en dise, il voulait croire. Il voulait voir Jésus pour être convaincu. Il avait très très envie de le faire. Et c'est pour ça, probablement, que le dimanche qui suit, parce que la deuxième fois c'est encore un dimanche, il se retrouve là avec les autres dans la chambre haute, au lieu même où Jésus était apparu avant. Il va au devant de la preuve. Il cherche à rencontrer ce ressuscité qu'il a tant aimé. Il se met en condition pour être convaincu. Bref, il a envie de croire. Certaines personnes réclament des preuves pour être convaincues de ce qu'ils croient. Et une fois convaincus, ils en sont des fervents défenseurs, des gens déterminés. La tradition chrétienne nous dit que Thomas a été l'évangélisateur de l'Inde et qu'il aurait voyagé jusque là-bas en proclamant le Christ. Mais d'autres personnes demandent des preuves dans le but de ne pas croire, dans le but de rester là où elles s'en sont. Ah oui, si Dieu faisait ceci, alors je croirais. Mais au fond de notre cœur, on n'a aucune envie que ça se passe. On a plutôt envie et l'assurance que ça ne se passera pas et qu'on ne changera pas nos convictions. Alors ces personnes critiqueront même les preuves peut-être qu'on avancera. Puis si elles sont acculées, peut-être seront-elles de mauvaise foi, produiront pas des vrais fruits, parce qu'en fait elles n'ont pas envie de croire. Thomas, lui, voulait croire, mais demandait une preuve. Il voulait croire et demandait à être convaincu. Et ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est que Jésus lui répond favorablement. Il apparaît de nouveau au milieu des disciples et lui parle personnellement. « Tiens Thomas, viens voir. Mets ton doigt. Mets ta main. » Il reprend les mêmes mots. « Ne refuse pas de croire, mais deviens un homme de foi », nous dit le texte. Littéralement, « Ne deviens pas incroyant, mais croyant. » Alors je me fais l'avocat de Thomas un peu. Thomas manque une apparition de Jésus. Je dis une apparition parce qu'il est vraiment apparu comme un fantôme, au milieu d'une pièce fermée à clé. Peut-être qu'on peut reprocher à Thomas qu'il n'ait pas cru, mais quand même, quand les femmes reviennent du tombeau et l'annoncent aux disciples, l'évangile de Matthieu, de Luc, raconte que elles n'ont pas cru. Aucun. Le pauvre Thomas sert de leçon là où d'autres disciples auraient pu se faire choper quand même. Ensuite, on peut mesurer que Thomas, il a manqué beaucoup. Il a manqué de voir Jésus vivant à nouveau. Il a manqué de recevoir cette étrange bénédiction où Jésus souffle sur ses disciples en disant « Recevez mon esprit ». J'ai presque l'impression que Thomas boude, qu'il est jaloux de ce que les autres ont eu et pas moi. Il a manqué le Seigneur. Il restera l'apôtre qui n'était pas là quand Jésus est revenu. Alors non, je veux le voir. Et pourquoi le Seigneur est-il revu quand lui n'était pas là d'ailleurs? Ou peut-être, pourquoi lui n'était-il pas avec les autres quand le Seigneur les a visités? En tout cas, il corrige le tir. Le dimanche d'après, Thomas ne manque pas le culte, le rassemblement. Et à ce moment-là, il le voit, enfin. Il le voit. Est-ce qu'il en demande plus? A-t-il seulement mis le doigt dans les trous et sa main sur le côté? Je ne pense pas. Je pense que d'entendre la voix du Seigneur, l'appeler par son prénom, s'adresser à lui, reprenant les mêmes mots qu'il avait maugrés tout à l'heure, enfin quelques jours avant, l'ont plus que convaincu. Thomas était le premier à reconnaître Christ comme son Dieu. mon Seigneur et mon Dieu. Son abandon est total. Brave Thomas. Jésus faillit de sa foi. Parce que tu as vu, tu as cru. Avec un soupçon de critique. La phrase est tournée un peu à l'interrogation. Ah, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Mais la suite nous concerne, nous. Vous. Il s'y trouve une bénédiction. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Frères et sœurs, il s'agit de vous. Si vous croyez. Mais peut-être que vous ne croyez pas encore. Alors il peut s'agir de vous. Vous pouvez devenir heureux. Pas un bonheur superficiel, passager, instable, pas du confort matériel, pas de la santé, pas de l'absence de soucis, non, 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 non. Il s'agit d'une joie profonde, d'une vie qui trouve un sens nouveau, une espérance nouvelle. L'horizon de ma vie est transformé. Je passe d'une vie monochrome à une vie en couleur. Mais même en couleur, il y a des épreuves et des soucis. Même en couleur, il y a de la mort, mais elle est en couleur. Ça change la vie. Mais que l'histoire de Thomas ne vous y trompe pas. Il n'y a pas, ça va peut-être vous faire bizarre, ce que je veux dire. Il n'y a pas de foi sans preuve. Il n'y a pas de foi sans preuve. Ne croyez pas le faux chemin qu'on entend beaucoup, que notre Dieu, le Dieu des chrétiens, vous demanderait une foi aveugle. C'est faux. On doit marcher par la foi, on doit voir par la foi, on doit être transformé par la foi. Il faut tout sauf une foi aveugle. Il faut une foi qui peut voir. La dernière chose qu'on veut, c'est une foi aveugle. Dieu vous appelle à croire en lui sur la base d'un fait historique pour nous. Jésus est ressuscité. La croix est vide et le tombeau est ouvert. Pour nous les chrétiens, ça peut paraître bizarre, Jésus est vivant aujourd'hui. Et on attend que le Messie revienne du ciel sur la terre. C'est ça notre espérance. C'est un peu fou, mais c'est ça notre espérance. On pense qu'il est vivant. Et pour être chrétien, il faut rencontrer ce Jésus vivant.